maintenant il faut que je fasse une photo de toi.
Bon bah ils
parlent aussi. Deux, là.
Ça parle pas, mais c'est pas
vrai. Tiens, car.
Faut parler.
Passe-moi Danakil, les champs de roses.
Ah oui, ça c'est ce que je vois à mon enterrement.
Comment?
Danakil, les champs de roses, vous connaissez pas?
Ah non, tu connais?
Oh non, mais mets-leur, c'est trop extraordinaire.
T'imagines la meuf, moi chez lui, ouais. Elle veut cette chanson pour son intervalle, mais aussi pour le podcast. Là, on a quand même du niveau.
Mais parce que c'est la fête. Tout, c'est la fête.
Ouais.
C'est la continuité.
C'est pour que les gens comprennent.
Marley qui est assez connu.
Oui, non, mais Danakil.
Les chaînes de rose.
C'est l'arbre, c'est clair,
regardez,
ils étaient à
bande. Ça, c'est parfait. Une, même là, avec une.
Et Karine, c'est à toi.
Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est sur Astragal, le bateau de Didier et Laurence, à Saint-Martin. Et on les a rencontrés au Bivia il y a un mois. Un couple avec qui on a bien accroché et puis qu'on avait envie de vous faire connaître.
On vous laisse vous présenter.
Donc Didier, 55 ans. En fait, je pratique la voile depuis que j'ai appris à nager. C'est bien, j'en rajoute un petit peu à chaque fois. On a acheté Astragal, donc qui est un feeling 446 du chantier Thierrier, il y a 4 ans maintenant. Et on a commencé notre voyage il y a 2 ans. On a mis 2 ans pour préparer le bateau parce qu'on a eu des petits soucis techniques. Lors d'une validation en fait, du bateau, on s'est rendu compte de problèmes de structure. En fait, il y avait 2 varangues qui étaient complètement foutues parce qu'en fait, ils prenaient l'eau. Et il a fallu vider en partie le bateau pour pouvoir en fait, faire les réparations. Et ça nous a pris pas mal de temps.
Ouais, c'était des grosses réparations, il a vraiment fallu démonter.
Oui, donc c'est un vieux bateau, hein, c'est un bateau de 89. Et à l'époque, les bateaux étaient construits en 3 phases d'ailleurs, je ne sais pas si c'est pas toujours pareil. Mais à l'époque, en tout cas, ils fabriquaient la coque, ensuite ils mettaient tout l'agencement à l'intérieur du bateau. Et ils mettaient en dernière étape le pont. Et du coup, les meubles volumineux, ce n'était pas du tout un problème. Par contre, pour les sortir par un carré lorsque le bateau est ponté, c'est pas tout à fait pareil. Donc en fait, il y a notamment le meuble de la table à cartes qui fait qu'on a été obligé de couper en 2 parce qu'en fait, il sortait pas du tout. Et ça n'a pas été tout simple. Il a fallu démonter plomberie, électricité, tout l'électronique, le siège là où on est confortablement assis s'est straté. Donc tout ça, il a fallu le faire sauter pour pouvoir en fait vider complètement le bateau et pouvoir le réparer à l'intérieur et à l'extérieur.
Gros chantier avant le départ, quoi.
Ouais, gros chantier avant le départ.
Avant le bateau, avant le départ, Laurence, Didier, comment vous est venu le projet?
Moi, je reviendrai d'abord parce que Laurence, c'est pas encore présenté. On a basculé sur les travaux sur le bateau et puis on a zappé Laurence.
Alors, moi, c'est Laurence. J'ai à peu près le même âge que Didier. Et en fait, ma description, je la ferai en plusieurs mots. C'est ce que je disais. Ce voyage a commencé il y a 30 ans, où on était dans les études. Et après les études, il y a eu une rencontre, il y a eu le service militaire, il y a eu la maison, les enfants et 50 ans. Donc voilà quand a commencé vraiment ce voyage. Et à 50 ans, on allait régulièrement, en fait tous les 2 ans, on faisait des petites croisières aux Antilles pour 2 semaines. Et puis la dernière, Didier, on était au Marin et il y avait un bateau à vendre. Et Didier a dit, nous on va faire ça, quoi. On va acheter un bateau et on va le faire à notre rythme. Parce que 15 jours... tous les 2 ans aux Antilles, on fait rien en fait.
Ouais, parce que vous avez quand même une expérience voile, quoi. Hein. Avant le départ en voyage,
Alors moi, j'ai essentiellement une expérience voile légère. En fait, j'ai commencé, comme beaucoup d'enfants, sur optimiste. Et au tout début, je détestais ça. Je comprenais rien. J'avais un machin qui me tapait sur la tête. Je me faisais hurler dessus par un gars sur un bateau à moteur derrière. J'avais froid, je trouvais vraiment aucun intérêt. Et puis, j'ai grandi et mes parents en fait m'inscrivaient tous les ans parce que ça leur permettait d'aller naviguer en parallèle. Et donc, ils mettaient les enfants à l'école de voile, ce qui était très très bien. Et puis, je pense que j'étais un peu plus grand, je devais avoir 8 ans. Là, j'ai commencé à comprendre et à vraiment trouver ça super sympa. Et surtout, nous tirer la bourre avec mes petits copains. Pour moi, c'était beaucoup cet aspect-là qui me séduisait dans la voile. Et donc, de fil en aiguille, j'ai fait un petit peu de compète en optimiste. Ensuite, j'ai fait du motorhop. J'ai un petit bateau solitaire. Et là, en fait, c'était... je devais avoir 14 ans à cette époque-là. C'était, en fait, partout, en France, à l'étranger. En fait, c'était un club qui était très dynamique. Donc moi, tous les week-ends, je prenais ma mobylette pour traverser tout Paris pour aller à mon club de voile. Et puis, on partait... ça pouvait être sur la Seine, hein, ça pouvait être dans une petite gravière, ça pouvait être dans un lac, ça pouvait être en mer. Partout, il y avait de la régate et on régatait. Et donc, j'ai progressé petit à petit.
Puis vraiment le goût de la voile.
Ouais, le goût de la voile.
Le goût de la voile, ouais.
Le goût de la voile, mais pas d'habitable. Parce qu'en fait, j'avais personne dans mon entourage qui en fait avait un gros bateau. On appelait ça un gros bateau. Et du coup, en fait, j'ai commencé à connaître en fait l'habitable beaucoup plus tard. Je devais avoir 17-18 ans où j'ai eu l'occasion de monter sur des bateaux habitables à la fois en dilettante, je vais dire, et puis à la fois en compétition. Donc, j'ai eu le plaisir de faire notamment une régate avec les pêcheurs de 7. Ça a été quelque chose. Et puis, voilà, en fait, petit à petit, j'ai un peu lâché la voile parce qu'il y a eu les enfants, la maison, le travail. Et puis, je suis revenu, en fait, un peu plus tard, parce qu'en fait, la société qu'on avait rachetée avec mon frère et ma belle-sœur, on importait, en fait, la marque Laser de petits bateaux.
Ouais, vous étiez dans le nautisme, pardon.
Ouais, voile légère. Donc en fait, trois activités. Une activité fabrication à base de tissu, donc les voiles, les taux, les trampolines, enfin tout ce qui touche le tissu sur les petits bateaux. Et une métallerie dont je m'occupais, donc la fabrication de mâts, et puis un petit peu d'accastillage, et des chariots de mise à l'eau. Et puis une partie de négoce, dont l'importation de la marque Laser de bateaux.
D'accord. Et toi, Laurent, c'était un rêve code trip, tu as connu la voile rencontrer Didier.
Alors moi en parallèle, pendant que Didier lui faisait de la voile, moi j'étais en moyenne montagne, entourée de vaches et de forêts, donc la voile c'était très 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 loin de moi. Donc voilà, et c'est Didier qui m'a fait découvrir la voile grâce à des petites croisières de 15 jours. Alors, au tout début de notre rencontre, on est allé en Corse, enfin voilà. Et puis, quand on a eu les enfants, on partait, comme je disais, tous les deux ans faire une petite croisière. Et j'ai le mal de mer, mais malgré tout ça, je veux toujours recommencer. Je veux toujours recommencer. Et du coup, quand on a décidé d'acheter un bateau, il fallait mettre en face les moyens. Et les moyens, ça a été vendre la maison, vendre la voiture, enfin vendre tout. Après, c'était pas forcément une nécessité, mais ça allait dans la démarche de 50 ans, même pas cap, et si on peut le faire, quoi. Donc, et j'en avais marre de mon petit côté Réa Kardèche, de pas aller jusqu'au bout, juste une fois. On dit on part, et on part. Et c'est intéressant de passer d'une maison de 200 mètres carrés à un petit bateau de 44 pieds.
44 pieds, ça fait donc du coup
13 mètres. 13
mètres. Et les enfants, du coup, vous avez quand même bien navigué avec eux, ils ont le goût de la voile.
Ça c'est mon grand regret. Eh non. Alors ils adorent faire du bateau parce qu'en fait ils adorent c'est surtout les mouillages, donc des petites criques idylliques pour aller faire du snorkeling, pour pêcher, pour aller se balader. Mais la voile en elle-même, j'ai jamais réussi à les faire accrocher. Alors je me suis dit je ne suis pas pédagogue. Les méthodes que j'avais, parce qu'en fait, quand j'ai fait mon armée, j'étais moniteur de voile, c'est super drôle. Mais en fait, ils ont fait des stages. Quand j'ai vu le niveau à la sortie des stages, je me suis dit, c'est pas la peine.
Parce que là, du coup, vous êtes vous un couple, quoi. Les enfants sont.
Ouais, mais ils sont grands, ils font des études supérieures. Et. Ils sont un petit. Il y en a un à Toulouse, et puis un qui est à Aix-en-Provence.
Oui, mais la famille, ce qui est génial, c'est quand on est un peu éclaté comme ça à l'instant T, mais quand on se retrouve tous les quatre sur le bateau, c'est le foyer qui est reconstruit. C'est vraiment des moments extraordinaires.
Vraiment tous les quatre ensemble.
Ouais.
Là, ça vraiment.
Et on découvre l'évolution parce qu'on ne les a pas suivis comme on peut, puisqu'on est loin, mais on les a laissés un moment. Et maintenant, au bout de 5, 6, 8 mois après, on retrouve nos enfants et on peut mesurer vraiment l'évolution qu'ils ont acquise, qu'ils ont fait sans nous, quoi. On les redécouvre. Et c'est là, on a hâte, puisqu'on rentre, on va les retrouver aux Açores.
Ouais. Alors donc là, vous, vraiment, le départ en voyage, c'était la date
Ça dépend si on prend la validation. Si la validation on la prend en compte, on est parti le 1er mai en fait de Port-le-Cat. On a fait.
Le 1er mai de quelle année? Parce que c'est important, parce que vous avez un parcours après.
2022. Ouais, 2022.
Ouais.
Et donc là, on a fait Corse, Sardaigne, un petit peu de Sicile, les îles éoliennes. C'était superbe. On est revenu à Port-le-Cat, on a fait des problèmes de peinture sur le bateau. En fait, on avait toute la peinture au-dessus de la ligne de flottaison qui s'arrachait. On avait un quart de la peinture qui était partie.
On est un peu maudit.
C'est top, hein. C'est un bateau qui a été repeint il y a 4 ans avant le rachat. Donc la peinture avait 7 ans. C'est extraordinaire. On était pris par le temps. Les conditions à Port-le-Cat étaient vraiment pas géniales. Donc peinture, c'était même pas la peine d'envisager. Donc en fait, on a fait un covering sur le bateau juste avant de partir. Le covering, c'est un tissu autocollant blanc qui, comme le Velleda sur lequel on marque les courses et sur le frigo.
Ouais,
c'est okay, pareil. Okay. Sauf que c'est des grandes baises et que c'est très très pénible à mettre.
Ok, donc un départ, on va dire 2022 quoi.
Ouais.
Courant 2022.
C'est ça. Donc on est parti dès 1er octobre ou 2 octobre de Le Cat. On a remonté l'Espagne très rapidement parce qu'on a été retrouver un bateau copain. On a été à Gibraltar ensemble.
Remonter l'Espagne, c'est-à-dire?
Non, descendre.
Descendre voilà. L'Espagne.
Oui.
Enfin, c'est remonter jusqu'à Gibraltar, mais c'est descendre en fait. Et donc Gibraltar, ensuite, on est parti sur Porto Santo, Madère, les Canaries, Cap Vert, enfin la grande classique.
Ouais.
La traversée où on a nos deux frangins qui sont venus nous retrouver. Puis on a traversé jusqu'en Martinique. L'objectif c'était d'arriver à Sainte-Anne puisque c'était là qu'on avait pris la décision.
D'accord. Mais vous avez transaté la même année, en 2022.
On est parti. Oui, décembre.
Décembre 2022.
Voilà, la continuité. Alors, là on est sur un mode de voyage plus rapide. Plus rapide que nous. Mais aussi d'autres voyageurs qu'on a vus, qui n'ont pas de date retour. Parce que vous étiez parti au début pour...
Une boucle en un an. Voilà, donc effectivement, on devait rentrer l'été d'après. Donc l'objectif, c'était quand même de passer quelques mois dans les Caraïbes. Donc il fallait transater vite. Et
ça impose un rythme un peu plus rapide. Quoi.
Tout à fait.
Mais ça ne s'est pas passé comme...
Qu'on n'a d'ailleurs pas suivi.
Voilà, on est d'accord.
On n'a pas suivi parce que lorsqu'on est arrivé au marin, en Martinique, on s'est rendu compte que toute cette première partie du voyage qui est extraordinaire parce que c'était le début du voyage, on avait complètement bâclé. On était allé trop vite pour Madère, Porto Santo, Madère. Après, il a fallu vite descendre sur les Canaries, après vite descendre sur le Cap Vert et on n'a rien vu de ces moments-là. Donc, après 16 jours de traversée, de mûre réflexion, quand on est arrivé de l'autre côté, on a dit on arrête les bêtises et on va faire ça en 2 ans. Donc il fallait organiser la mise en hivernage du bateau. Mais à partir de janvier 2023, on a vraiment pris le temps de faire en 2 fois et de profiter.
Ouais, d'accord. Quand tu dis la mise en hivernage, c'est-à-dire que vous avez interrompu votre voyage en bateau quand même. Du coup, vous avez mis le bateau...
Ouais,
au sec. Ça fait pas 2 ans que vous êtes sur le bateau à voyager.
Fin mai, on est descendu sur Trinidad, donc vraiment le sud des Caraïbes, là où a priori on est le mieux protégé pour les cyclones. On a sorti le bateau de l'eau et on est rentré en métropole pour travailler. Donc on est revenu ensuite au mois de novembre 2023.
Le 15 novembre.
Et donc bah après, préparatif du bateau pour le remettre à l'eau et puis remise à l'eau du bateau continuer à remonter l'Arcantillet. Et là, cette fois-ci, sans retour, donc vraiment monter jusqu'au nord pour ensuite faire la transat retour.
Parcourir le monde et voir ce que la vie propose. Vivre au grand air et marcher dans les champs de roses. Visiter les places où le destin me dépose. Et devant les merveilles du monde, je prendrai la pause. Parcourir le monde et voir ce que la vie propose. Vivre au grand air et marcher dans les champs de roses. Quelque part sur la route, il y a bien quelque chose. Repère ton étoile et décroche-la si tu l'oses. Me dit, tâchez monsieur de faire pour vous le choix qui est le bon. Je choisis que les mots et la basse gronde à l'unisson. Qualifié de sauvage pour avoir le cœur vagabond. Je ne laisserai pas dormir mes rêves sur le paillasson. Ma vie sera trop courte et même si elle dure un siècle, je ne la passerai pas confinée comme un insecte. Stupide et ivre, non, je veux vivre. Libre, que la musique me délivre. Que mes amis, que mes amours puissent lire en moi comme dans un livre. J'aimerais parcourir le monde et voir ce que la vie propose. Vivre au grand air et marcher dans les champs de roses. Visiter les places où le destin me dépose. Et devant les merveilles du monde, je prendrai la pause. Parcourir le monde et voir ce que la vie propose. Vivre au grand air et marcher dans les champs de roses. Quelque part sur la route, il y a bien quelque chose. Repère ton étoile et décroche-la si tu l'oses.
C'est ça qui est prévu pour bientôt, là.
Ouais. Courant mai. Courant mai.
On est fin mars, hein.
Ouais, 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 ouais. Dans un mois et demi, voilà. On est la tête dans la transat.
Ouais, ouais.
En fait, il faut absolument qu'on se refasse un financier, on va dire. Et je pense que d'ici 5 ans, on devrait pouvoir se refaire un programme de voyage. Je pense qu'on ira entre-temps faire plusieurs mois en Grèce, parce que c'est vraiment une destination qui nous attire beaucoup. Et puis ensuite, refaire en fait une boucle, mais peut-être différemment, peut-être être un petit peu plus aventurier, sortir un peu plus des sentiers battus.
Ouais.
Des bateaux comme Estafette nous ont bien donné envie d'aller sur certains pays.
Ouais, Estafette, c'est un couple de jeunes que vous avez rencontrés pendant la première partie de votre voyage, c'est ça
hein? Ah non, en fait, ouais, dans l'histoire, c'est on avait fait une formation médicale et on a rencontré Flavie, donc la jeune fille, lors de cette formation. Et en fait, on s'est croisés sur le voyage et on a beaucoup discuté de nos programmes parce qu'ils étaient relativement différents. Et en fait, c'est vrai que leur programme était vraiment très sympa.
Et puis, eux aussi ont prolongé
et eux aussi,
d'une année. Par contre, c'est un profil complètement différent. C'est deux jeunes ingénieurs qui ont tiré le leçon du Covid et qui ont mis en face les moyens pour pouvoir partir.
Partir, faire, ouais.
Voilà. Alors du coup, est-ce que vous devez pouvoir tirer déjà le premier bilan de cette première partie de voyage, en fait, partie qui est à deux parties en plus, quoi. Qu'est-ce que vous en avez retiré, quoi, de tout ça?
Alors, ce voyage, pour moi, partir, vendre la maison et acheter un bateau et partir, c'était déjà une première étape dans un cheminement intellectuel. Et je pensais que ça allait me révéler des choses, je pensais que j'allais me trouver, moi, mais là, j'ai un peu... Le constat de faire que je suis toujours aussi perdue. Hein. Je sais pas, oui, mais là. Alors, ça a pris plein de choses, mais je sais pas si on va réussir à se réimplanter dans le système qu'on avait quitté, quoi. En plus, avec 2 ans de plus, pas facile de trouver un boulot. Enfin, il y a plein de trucs. On va voir comment ça va se passer. Donc voilà ce que ça... Enfin, moi, ça ne m'a pas servi à grand-chose, si ce n'est à avoir des moments idylliques, des moments magiques que je suis contente d'avoir vécu. Donc rien que pour ça, c'est top. Et puis, on gérera les problèmes dans 2 mois.
Du coup, vous avez une inquiétude, là, pour le retour en France, hein? Je ne parle pas au niveau boulot, tout ça, parce que je ne sais pas dans quel secteur vous allez travailler, mais de se sortir de la vie comme ça, de bateau, et de retourner dans une vie sédentaire.
Ah bah oui, mais on n'imagine pas quel détachement c'est de vivre sur un bateau, quoi. C'est extraordinaire. Et en plus, on peut le contrôler. Si on veut pas se connecter, on peut ne pas se connecter. Et même si de temps en temps c'est nécessaire, c'est un chemin déjà à ce niveau-là. C'était quoi ta question du départ?
Bah, qu'est-ce que vous en retirez déjà de cette première, cette partie
de
du voyage déjà?
Cette expérience en fait de votre chemin parcouru là. Ouais.
Alors moi, je crois qu'il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est par rapport à notre couple. En fait, on était avec les enfants sont partis, on était dans la grande maison, la maison a été vendue, on est arrivé sur le bateau. Ça nous a un peu rapprochés sur certains centres d'intérêt en tout cas. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai eu. Mm-hmm. Ça, c'est peut-être plus pour un aspect un peu personnel. Il y a l'aspect aussi que j'avais un esprit très tourné sur la compétition, parce que j'ai toujours été compétiteur en voile, et qu'en fait la croisière en tant que croisière ou voyage, c'était pas forcément une notion que j'appréhendais avec facilité. Et puis en fait, je me rends compte que c'est très facile de gommer ce côté régate et de prendre le plaisir et de vivre l'instant et vraiment de profiter. Je crois que c'est vraiment la chose que je retiendrai le plus. Après, il y a tout l'aspect découverte, l'aspect rencontre, l'aspect ouvrir les yeux peut-être sur certaines choses où on en a conscience, mais quand on est pris dans son quotidien, et ben, on fait fi de tout ça. Et voir en fait dans les conditions dans lesquelles vivent certaines personnes sur les îles, remettre un peu la tête sur les épaules. Et je pense qu'effectivement, on peut beaucoup relativiser quand on revient et quand on voit ce qui va se passer. Quand j'imagine ce qui va se passer par rapport au retour qu'on a pu avoir là, pendant les 5 mois, des choses qui sont très futiles et bien inutiles et vraiment se ressentir sur l'essentiel.
Non, mais c'est pour ça qu'on aura envie de repartir.
c'est inévitable, mais il va quand même falloir à un moment donné que les caisses se reforment un petit peu.
Ouais, la rencontre, ça fait vraiment partie des moments super importants de ces voyages. Vous en êtes l'illustration même. Ouais. Et c'est chouette parce que vraiment, on rencontre des gens qui viennent d'horizons totalement différents avec des histoires, ces histoires qui vont ressortir au travers des podcasts. C'est ce qui est intéressant. Et en fait, on le vit, et puis on se retrouve sur des mouillages. C'est vraiment très sympa. Et puis, si tu n'as pas envie de retrouver quelqu'un, tu n'y vas pas sur le mouillage. Oui, on rencontre d'autres formes de voyageurs. On a rencontré une personne qui, à 60 ans, retraçait toute sa famille en allant d'île en île, pas du tout en bateau, hein, il prenait des navettes d'île en île pour retrouver tous les gens de sa famille et retracer comme un arbre généalogique, mais vivant, quoi. Et ça, c'est des rencontres intéressantes.
Et vous l'avez rencontré comment alors?
Ah ben, sur un ponton, il nous attendait. Il nous a vu arriver, il a dit « c'est pour moi ». Et on est resté un jour et demi avec lui. On a rencontré son cousin, d'ailleurs chez qui il était, qui était un vrai rasta. Et on a passé une soirée à découvrir
La culture rasta, l'état d'esprit rasta.
Ils nous ont emmenés dans un site de plongée super sympa. Enfin, c'était très très chouette. Et puis là, lui, il a continué son périple.
Sur quelle île, ça?
La Dominique.
La Dominique.
C'était en Dominique. Et voilà, les rencontres.
Il n'y a pas que celle-là. Il y a aussi Lance Noire.
Oui, Lance Noire, c'était la rencontre avec des gens de l'île qui n'étaient jamais montés à bord d'un bateau et ils
travaillaient sur une plage et ils louaient des canoës.
Et en fait, ils n'étaient jamais montés sur un bateau. Ils voyaient toujours les voiliers mouillés dans leur petite anse. Et j'ai bien sympathisé avec Marion qui fait des petits des bijoux sur la plage. Et je lui ai proposé un troc. Donc une journée à bord d'Astragale avec leurs deux enfants et on va mouiller quelque part contre un barbecue sur la plage avec des poissons chassés à peu près.
Lance Noire qui est à Martinique.
Oui, Lance Noire qui est. Et bien ça a été une super rencontre aussi, un super échange. Et c'est tout ce que le bateau nous permet de faire.
Et là, on tape beaucoup Astragale. dans le nom du bateau, mais
mais pas que.
Il n'y a pas que le bateau, quoi. Voilà, parce qu'autour de nous, c'est bien décoré, quoi. Justement avec des astragales. Il faut laisser vraiment Laurence nous expliquer ce que c'est.
En fait, quand je suis partie et que je me suis dit, oh là là, tu vas rester longtemps sur un bateau, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai voulu me trouver une activité. Et en fait, ben, je me suis mise à tricoter. Mais alors, le tricot, pour moi, c'est un peu, je suis un peu Thérèse dans Le Père Noël est une ordure. Mon niveau tricot se situe là. Mais je voulais aborder la laine plus comme une matière. Et tricoter un fil, c'est extraordinaire. Tu pars d'un fil et tu arrives à des carrés. Et je me suis dit que j'allais tricoter des astragales. Alors, l'origine d'astragales remonte à la grand-mère de Didier, qui, à la fin de sa vie, était aveugle. Et elle tricotait des petits carrés pour faire des couvertures patchwork de naissance. Et en fait, cette dame, elle était, je vais faire vite, elle était institutrice. Et c'était une institutrice extraordinaire qui regardait l'enfant comme il était, sans tenir compte de son environnement, de la famille. Et elle l'éduquait et elle le faisait évoluer. Et quand elle tricotait ses petits carrés, je me suis dit que cette vieille dame qui avait accompagné tous les enfants, une quantité incroyable d'enfants, et qui tricotait maintenant une couverture pour un nouvel enfant qui allait arriver, je pense qu'elle a chargé ses petits carrés d'une énergie et de toutes ses valeurs. Et quand on a posé la couverture dans le berceau ou à côté, j'ai vraiment eu l'impression que c'était une fée qui s'était penchée sur nos enfants. Donc voilà, moi je voulais faire un objet, quelque chose dans lequel j'allais transmettre les valeurs, mes valeurs, mais aussi les émotions que j'allais traverser pendant ce voyage.
Mais est-ce que tu peux nous faire un descriptif de l'astragale? Parce que c'est quand même abstrait, pour que les gens puissent avoir une idée de...
Un astragale, c'est des petits carrés de laine qui sont réunis entre eux avec des baguettes de bambou. Et cette laine étant tricotée d'une manière très serrée, elle devient matière et on obtient des petits tableaux, on pourrait dire modernes. C'est un peu abstrait, mais les couleurs choisies, l'emplacement des petits carrés fait rayonner chaque astragale de la personne qui l'a fait. Et en fait, on offre un astragale à quelqu'un qu'on aime bien et qu'on a envie d'accompagner. Et cette personne, quand elle aura l'astragale chez elle, qu'elle posera ses yeux dessus, cet astragale lui renverra plein d'énergie. Donc ça l'accompagnera.
Et nous, on est trop contents parce que derrière Laurence, il y a un astragale qui va finir sur Créa.
Voilà, c'est l'astragale pour nos chasseurs-cueilleurs de la mer. Ce sont Manu et Karine, les chasseurs-cueilleurs.
Non, Laurence se dit ça parce qu'on s'est croisé au Bivia, et au Bivia, c'était quand même assez riche.
Oui, et
que
surtout.
Nous offrait la nature.
Surtout interdit.
On s'est fait de l'aventure de son héros ensemble.
Ouais, non, c'était interdit effectivement, mais c'était pas une réserve quand même.
Interdit quand même.
Les gens en bateau, les étrangers au pays n'ont pas le droit de chasser. Les locaux ont le droit de chasser.
Voilà, donc nos chasseurs-cueilleurs se sont sentis très locaux.
C'est cette petite âme locale,
c'est voilà. Fait au ah oui, Sombrero, c'est on se demande à quoi tient le nom de cette île. Et elle est mystérieuse comme son nom, parce que finalement, on pourrait dire c'est parce qu'elle a la forme d'un sombrero, mais pas du tout. C'est assez lugubre quand même. Ça peut être assez austère et lugubre.
Et encore que nous, on l'a vu dans des bonnes conditions météo.
Donc pour le côté sombre du mot sombrero.
Peut-être, ouais. Mais une petite îlot riche, quoi, parce que du coup, personne ne vient là. La vie suit son cours tranquillement. Quoi,
Et puis, c'est pas la même faune. C'est pas le même bord. Là, c'est des apics qui descendent à 15-20 mètres. L'eau, elle était d'une limpidité, c'était incroyable. Et le chant des baleines.
C'est tout ça. Le chant des baleines à la tête sous l'eau, là. Waouh, c'est magique.
Ouais, on avait des baleines, en fait, qui étaient pas loin de Sombrero. Et du coup, on les a entendues tout au long du snorkeling. On avait les baleines qui nous accompagnaient.
Ah ouais, et puis nos chasseurs-cueilleurs ont fait honneur à leur nom et leur réputation parce qu'ils nous ont pêché. Ça se pêche, ça se tire. Quatre attrapés.
On les a pas tirés, on les a attrapés. Ouais.
Attrapés, quatre langoustes incroyables.
C'est une belle dimension.
On s'est bien régalé.
Ah oui, on s'est bien régalé.
Je confirme,
il y avait du corail comme j'en avais jamais vu. Et elles ont été parfaitement cuisinées et cuites par Manu.
Et donc là, votre programme, on est à Saint-Martin, mais vous êtes encore en travaux.
Ouais, des petits soucis électriques. On a les batteries qui sont vraiment faiblardes, donc on a décidé de passer en batterie lithium. Mais en fait, c'est plus compliqué que prévu de passer en batterie lithium. Il faut changer plein de choses sur le bateau, et du coup, bah, ça prend un peu de temps. Et puis surtout, la pro des batteries est un peu long. Et moi, ça fait plus de 4 semaines qu'on a commandé la batterie. Bon, entre temps, on a été au BVI.
On n'a pas attendu
bêtement au mouillage. Enfin, là, un petit peu quand même.
Mais voilà, une fois que la centrale nucléaire sera en place, on va pouvoir repartir. Et la direction, on va refaire un petit tour dans le sud.
Ouais, donc là, quel est votre programme une fois que c'est
à place ? En fait, à la base, on devait faire République Dominicaine, Cuba, Bahamas, Bermudes, Açores. Et en fait, le timing ne va plus nous le permettre. Donc on va redescendre un petit peu sur Marie-Galante, certainement. On va faire Saba, Saint-Eustache, Montserrat, tout ça, on ne l'avait pas fait. Donc on va en profiter pour le faire. Et puis on a un ami de la famille qui va venir à bord pendant 10 jours. Donc on va certainement retourner faire un petit tour dans les BVI pendant une dizaine de jours. Et puis bah, ensuite, on va se préparer pour la Transat. Hein.
Et puis il faut en laisser un peu. Quand on va revenir,
voilà, mais
on ira.
Surtout que ça correspond bien avec la boucle par l'intérieur.
Ouais. Donc il faudra. Alors ça fait partie des choses que le bateau nous a appris et fait évoluer. La résignation. Tu sais, tu as un programme, comme on dit, pas de programme. Et sans difficulté, bon, il y a un jour où tu es un peu vexé, mais après, ben, tu te fais à la nouvelle idée et tu trouves des belles choses dans la nouvelle. Dans le nouveau programme, donc là maintenant on va finir tranquillement, à petit rythme, avant de faire les 3 semaines de traversée. Je pense qu'à deux sur un 38 ouais, pieds, ouais. Ça le fait quoi, mais
c'est ça.
Fallait pas exagérer quand même.
Bon, en même temps, je te connais et je savais que quelque part, tu me ramènerais plein de choses d'un peu partout, notamment un petit clin d'œil sur le Cap-Vert. Hein. Tu peux me rappeler ce qu'on a ramené du Cap-Vert ?
Ouais.
J'aime beaucoup, beaucoup la pierre, les végétaux et tout ça. Et au Cap-Vert, il y avait des meules qui faisaient pour écraser le maïs en pierre de lave taillée. C'était en 2 pièces, vraiment magnifique. Et en fait, ces meules, elles faisaient partie de le matériel de cuisine qu'on donne aux jeunes filles quand elles commencent à se lancer là. Non, pas la dot, mais tu sais, le trousseau. Et en fait, il y a la meule, il y a la biche pour mettre l'eau, et il y a comme une coupe en bois où on pilait le. Ça fait partie des 3 choses indispensables pour. Dans une cuisine. Là-bas en Afrique.
Toi, tu as décidé de te mettre de nouveau dans le ménage et tu t'es dit, il nous faut la meule.
Non, j'ai vu de la pierre de lave taillée, j'ai vu une histoire qui s'éteignait et j'avais envie de la ramener avec moi. Voilà. Et puis, il n'y a qu'en bateau que tu peux faire ça, tu ne vas pas te traîner une meule dans l'avion. Donc, et là où ils ont été adorables, parce que mes trois compagnons de la Transat, ils sont allés m'acheter la meule. À 3, ils me l'ont ramené sur le bateau.
Ah ouais.
Et c'était mon cadeau de Noël.
Mais ça représente quel volume, quel poids ?
Non, en fait, elle exagère un petit peu. C'est quoi ? C'est 25 kilos et c'est.
C'est pas. Et, oh oui, on l'a pas monté avec un palan à bord du truc. Hein.
Bon, exagéré. Ça reste raisonnable. Mais bon, c'est un exemple. Il y a plein d'autres choses.
C'est vrai qu'elle revient jamais les mains vides d'une baignade ou d'une balade sur la plage.
Non.
Dans ma boîte à trésors, qu'est-ce qu'il y a dans ma boîte à trésors ? Il y a un crabe déshydraté que j'ai trouvé sur la plage. Il est vachement sympa, il a une bouille sympa. Il sent encore un peu, mais bon, j'ai bon espoir. Donc, il y a des coquillages, il y a des monnaies Caraïbes, porte-bonheur. Tu en as un d'ailleurs autour du cou, que tu as trouvé sur la plage. Il y a des cailloux, il y a des coraux fleurs, il y a des bouts de bois, des oursins. J'ai une collection d'oursins extraordinaire. L'oursin de l'art, le gros, le... J'ai une collection d'oursins incroyable. Et voilà, il fallait un grand bateau pour mettre tout ça.
Super, on aurait déjà mis le téléphone parce que lui, c'est été.
Le téléphone ici,
ouais, il a bien marché.
Ça foire ton truc là.
Ouais, là c'est...
Bon, on a l'estafette qui a mouillé juste à côté.
Ah, les petits. Non, mais
toi, on finit, on fait la petite conclusion comme étant. Ouais. Je te laisse faire, Karine.
Pas sympa. Ça, c'est pas sympa.
Elle a respiré, Karine, mais un truc de dingue.
C'est pas sympa.
Eh bien, voilà, merci beaucoup, en tout cas, Didier et à Laurence, de nous avoir reçus comme ça sur Astragal. Ça a été un enregistrement un peu compliqué parce que le matériel a fait un peu défaut, mais on y est arrivé. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, quoi? Enfin, moi, je sais que je vous souhaite de pouvoir. Bien rentré, super quoi, mais après de repartir. Quoi.
Ah oui, ouais. C'est vraiment une volonté. C'est surtout merci à vous, hein. C'était très sympa.
C'est super de voyager comme ça parce que tu n'es pas frustré en fait. Tu prends ton temps parce que tu sais que tu vas revenir et que tu revoyageras.
Ouais.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci à vous.
Ouais, c'était très intéressant et on va vous laisser sur ces belles paroles. Donc, ouais. Pas de Pacifique, retour en France.
Retour en France, ouais. Je pense qu'en Méditerranée, il y a également beaucoup de choses à faire.
Alors ça ressort beaucoup chez tous les gens qu'on a rencontrés qui ont été en Méditerranée.
Ouais.
Très bien. Merci beaucoup, on vous dit au revoir et bonne continuation à vous.
Merci, vous aussi surtout.
À bientôt.
Pas trouvé l'inspiration depuis la dernière verse. Je vis avec ce qui me tue et la fatigue me dupe. Mes désirs ont pris le dessus et laissent en moi d'infimes fêlures. Quand je me réveille lentement le matin, j'attends la nuit impatiemment. Elle est comme un pansement, y'a qu'avec elle que j'ai pas sommeil. Ouais, qu'un matin ne me donne du bonheur. La caféine comme un seul moteur. J'attends le soir pour attendre les hauteurs et dévoiler le contenu de mon coffre.
L'enregistrement dans la douleur.
Oh là là, non mais c'est nul. C'est les enchaînements, mais comment on peut faire des enchaînements pareils? On a tellement répété au début qu'on savait plus.
Ouais, non mais.
C'est complètement incohérent, tu peux pas sortir un truc de ça.
Mais si, tu vas voir.
Je suis Milou, mi-homme. Je suis Milou, mi-homme. Face à mon vœu le plus cher qui me restreint et m'emprisonne. Je suis Milou, mi-homme. Je suis Milou, mi-homme. Face à mon vœu le plus cher qui me restreint.